Chapitre 8. La bataille du Macar. Dès le lendemain, il tira des Sicites 223 000 kikars d'or. Il décréta un impôt de 14 shekels sur les riches. Les femmes même contribuèrent. On payait pour les enfants et, chose monstrueuse, dans les habitudes carthaginoises, il força les collèges des prêtres à fournir de l'argent. Il réclama tous les chevaux, tous les mulets, toutes les armes. Quelques-uns voulurent dissimuler leurs richesses. On vendit leurs biens. Et pour intimider l'avarice des autres, il donna 60 armures et 1500 gomors de farine, autant à lui seul que la compagnie de l'ivoire. Il envoya dans la Ligurie acheter des soldats, 3000 montagnards habitués à combattre des ours. D'avance, on leur paya 6 lunes à 15 mines par jour. Cependant, il fallait une armée. Mais il n'accepta pas, comme Hannon, tous les citoyens. Il repoussa d'abord les gens d'occupation sédentaire, puis ceux qui avaient le ventre trop gros, ou l'aspect pusillanime, et il admit des hommes déshonorés, la crapule de Malka, des fils de barbares, des affranchis. Pour récompense, il promit à des Carthaginois nouveaux le droit de cité complet. Son premier soin fut de réformer la Légion. Ces beaux jeunes hommes qui se considéraient comme la majesté militaire de la République se gouvernaient eux-mêmes. Il cassa leurs officiers. Il les traitait rudement, les faisait courir, sauter, monter tout d'une haleine la pente de Birsa, lancer des javelots, lutter corps à corps, coucher la nuit sur les places. Leurs familles venaient les voir et les plaignaient. Il commanda des glaives plus courts, des brodequins plus forts. Il fixa le nombre des valets et réduisit les bagages. Et, comme on gardait dans le temple de Moloch 300 pilums romains, malgré les réclamations du pontife, il les prit. Avec ceux qui étaient revenus d'Utique et d'autres que les particuliers possédaient, il organisa une phalange de 72 éléphants et les rendit formidables. Il arma leurs conducteurs d'un maillet et d'un ciseau afin de pouvoir dans la mêlée leur fendre le crâne s'ils s'emportaient. Il ne permit point que ses généraux fussent nommés par le Grand Conseil. Les anciens tâchaient de lui objecter les lois. Il passait au travers. On n'osait plus murmurer. Tout pliait sous la violence de son génie. À lui seul, il se chargeait de la guerre, du gouvernement et des finances, et, afin de prévenir les accusations, il demanda comme examinateur de ses comptes le suffète Hannon. Il faisait travailler aux remparts et, pour avoir des pierres, démolir les vieilles murailles intérieures, à présent inutiles. Mais la différence des fortunes, remplaçant la hiérarchie des races, continuait à maintenir séparés les fils des vaincus et ceux des conquérants. Aussi les patriciens virent d'un œil irrité la destruction de ces ruines, tandis que la plèbe, sans trop savoir pourquoi, s'en réjouissait. Les troupes en armes, du matin au soir, défilaient dans les rues. À chaque moment, on entendait sonner les trompettes. Sur des chariots passaient des boucliers, des tentes, des piques. Les cours étaient pleines de femmes qui déchiraient de la toile. L'ardeur de l'un à l'autre se communiquait. L'âme d'Amilcar emplissait la République. Il avait divisé ses soldats par nombre pair, en ayant soin de placer dans la longueur des files, alternativement, un homme fort et un homme faible, pour que le moins vigoureux, ou le plus lâche, fût conduit à la fois et poussé par deux autres. Mais, avec ses 3000 ligures et les meilleurs de Carthage, il ne put former qu'une phalange simple de 4096 hoplites, défendue par des casques de bronze et qui maniait des sarisses de frêne longues de 14 coudées. 2000 jeunes hommes portaient des frondes, un poignard et des sandales. Il les renforça de 800 autres, armés d'un bouclier rond et d'un glaive à la romaine. La grosse cavalerie se composait des 1900 gardes qui restaient de la Légion, couverts par des lames de bronze vermeil, comme les clinabars assyriens. Il avait de plus 400 archers, à cheval, de ceux qu'on appelait des tarentins, avec des bonnets en peau de belette, une hache à double tranchant et une tunique de cuir. Enfin, 1200 nègres du quartier des caravanes, mêlés aux clinabars, devaient courir auprès des étalons en s'appuyant d'une main sur la crinière. Tout était prêt, et cependant Amilcar ne partait pas. Souvent la nuit il sortait de Carthage, seul, et il s'enfonçait plus loin que la lagune, vers les embouchures du Macar. Voulait-il se joindre aux mercenaires? Les Ligures campant sur les Mappales entouraient sa maison. les appréhensions des riches parurent justifiées quand on vit un jour 300 barbares s'approcher des murs. Le suffète leur ouvrit les portes. C'étaient des transfuges, ils accouraient vers leur maître, entraînés par la crainte ou par la fidélité. Le retour d'Hamilcar n'avait point surpris les mercenaires. Cet homme, dans leurs idées, ne pouvait pas mourir. Il revenait pour accomplir ses promesses, espérance qui n'avait rien d'absurde, tant l'abîme était profond entre la patrie et l'armée. D'ailleurs, il ne se croyait point coupable, on avait oublié le festin. Les espions qu'ils surprirent les détrompèrent. Ce fut un triomphe pour les acharnés. Les tièdes même devinrent furieux. Puis les deux sièges les accablaient d'ennui. Rien n'avançait, mieux valait une bataille. Aussi beaucoup d'hommes se débandaient, couraient la campagne. À la nouvelle des armements, ils revinrent. Mâtho en bondit de joie. « Enfin, enfin » s'écria-t-il. Alors le ressentiment qu'il gardait à Salammbô se tourna contre Hamilcar. Sa haine, maintenant, apercevait une proie déterminée, et comme la vengeance devenait plus facile à concevoir, il croyait presque la tenir et déjà s'y délectait. En même temps, il était pris d'une tendresse plus haute, dévoré par un désir plus âcre. Tour à tour, il se voyait au milieu des soldats, brandissant sur une pique la tête du suffète, puis dans la chambre au lit de pourpre, serrant la Vierge entre ses bras, couvrant sa figure de baisers, passant ses mains sur ses grands cheveux noirs, et cette imagination qu'il savait irréalisable le suppliciait. Il se jura, puisque ses compagnons l'avaient nommé Shalishim, de conduire la guerre. La certitude qu'il n'en reviendrait pas le poussait à la rendre impitoyable. Il arriva chez Spendius et lui dit « Tu vas prendre tes hommes, j'amènerai les miens. Avertis Autharit. Nous sommes perdus si Hamilcar nous attaque. M'entends-tu ? Lève-toi. » Spendius demeura stupéfait devant cet air d'autorité. Mâtho, d'habitude, se laissait conduire, et les emportements qu'il avait eus étaient vite retombés. Mais à présent, il semblait tout à la fois plus calme et plus terrible. Une volonté superbe fulgurait dans ses yeux, pareille à la flamme d'un sacrifice. Le grec n'écouta pas ses raisons. Il habitait une des tentes carthaginoises à bordure de perles, buvait des boissons fraîches dans des coupes d'argent, jouait au cotab, laissait croître sa chevelure et conduisait le siège avec lenteur. Du reste, il avait pratiqué des intelligences dans la ville et ne voulait point partir, sûr qu'avant peu de jours elle s'ouvrirait. Narr-Havas, qui vagabondait entre les trois armées, se trouvait alors près de lui. Il appuya son opinion et même il blâma le Libyen de vouloir, par un excès de courage, abandonner leur entreprise. « Va-t'en si tu as peur !» s'écria Mâtho. « Tu nous avais promis de la poix, du soufre, des éléphants, des fantassins, des chevaux. Où sont-ils » Narr-Havas lui rappela qu'il avait exterminé les dernières cohortes d'Anon. Quant aux éléphants, on les chassait dans les bois. Il armait les fantassins, les chevaux étaient en marche. Et le Numide, en caressant la plume d'autruche qui lui retombait sur l'épaule, roulait ses yeux comme une femme et souriait d'une manière irritante. Mâtho, devant lui, ne trouvait rien à répondre. Mais un homme que l'on ne connaissait pas entra, mouillé de sueur, effaré, les pieds saignants, la ceinture dénouée. Sa respiration secouait ses flancs maigres à les faire éclater, et tout en parlant un dialecte inintelligible, il ouvrait de grands yeux comme s'il eût raconté quelque bataille. Le roi bondit dehors et appela ses cavaliers. Ils se rangèrent dans la plaine, en formant un cercle devant lui. Narr-Havas, à cheval, baissait la tête et se mordait les lèvres. Enfin, il sépara ses hommes en deux moitiés, dit à la première de l'attendre, puis, d'un geste impérieux, enleva les autres au galop. Il disparut dans l'horizon du côté des montagnes. « Maître, » murmura Spendius, « je n'aime pas ces hasards extraordinaires. Le suffète qui revient, Narr-Havas qui s'en va. Eh, qu'importe !» fit dédaigneusement Mâtho. C'était une raison de plus pour prévenir Hamilcar en le rejoignant Autharit. Mais si l'on abandonnait le siège des villes, leurs habitants sortiraient, les attaqueraient par derrière, et l'on aurait en face des Carthaginois. Après beaucoup de paroles, les mesures suivantes furent résolues et immédiatement exécutées. Spendius, avec 15 000 hommes, se porta jusqu'au pont bâti sur le Macar, à 3 000 d'Utique. On en fortifia les angles par 4 tours énormes garnies de catapultes. Avec des troncs d'arbres, des pans de roches, des entrelacs d'épines et des murs de pierre, on boucha dans les montagnes tous les sentiers, toutes les gorges. Sur leur sommet, on entassa des herbes, qu'on allumerait pour servir de signaux, et des pasteurs habiles à voir de loin, de place en place, y furent postés. Sans doute, Hamilcar ne prendrait pas comme un nom par la montagne des eaux chaudes. Il devait penser qu'Autharite, maître de l'intérieur, lui fermerait la route. Puis un échec au début de la campagne le perdrait, tandis que la victoire serait à recommencer bientôt, les mercenaires étant plus loin. Il pouvait encore débarquer au Cap des Raisins, et de là marcher sur une des villes. Mais il se trouvait alors entre les deux armées, imprudence dont il n'était pas capable avec des forces peu nombreuses. Donc, il devait longer la base de l'Ariana, puis tourner à gauche pour éviter les embouchures du Macar, et venir droit au pont. C'est là que Mato l'attendait. La nuit, à la lueur des torches, il surveillait les pionniers. Il courait à Hipposarite, aux ouvrages des montagnes, revenait, ne se reposait pas. Spendius enviait sa force, mais pour la conduite des espions, le choix des sentinelles, l'art des machines et tous les moyens défensifs, Mato écoutait docilement son compagnon, et il ne parlait plus de Salammbô, l'un n'y songeant pas, et l'autre empêché par une pudeur. Souvent il s'en allait du côté de Carthage pour tâcher d'apercevoir les troupes d'Hamilcar. Il dardait ses yeux sur l'horizon, il se couchait à plat ventre, et dans le bourdonnement de ses artères, croyait entendre une armée. Il dit à Spendius que si avant 3 jours Hamilcar n'arrivait pas, il irait avec tous ses hommes à sa rencontre lui offrir la bataille. 2 jours encore se passèrent, Spendius le retenait. Le matin du 6e, il partit. Les Carthaginois n'étaient pas moins que les barbares impatients de la guerre. Dans les tentes et dans les maisons, c'était le même désir, la même angoisse. Tous se demandaient ce qui retardait Hamilcar. De temps à autre, il montait sur la coupole du temple d'Eshmoun, près de l'Annonciateur des Lunes, et il regardait le vent. Un jour, c'était le 3e du mois de Tibi, on le vit descendre de l'acropole à pas précipités. Dans les Mappales, une grande clameur s'éleva. Bientôt les rues s'agitèrent, et partout les soldats commençaient à s'armer au milieu des femmes en pleurs qui se jetaient contre leur poitrine, puis ils couraient vite sur la place de Camon prendre leur rang. On ne pouvait les suivre, ni même leur parler, ni s'approcher des remparts. Pendant quelques minutes, la ville entière fut silencieuse comme un grand tombeau. Les soldats songeaient, appuyés sur leurs lances, et les autres, dans les maisons, soupiraient. Au coucher du soleil, l'armée sortit par la porte occidentale. Mais au lieu de prendre le chemin de Tunis ou de gagner les montagnes dans la direction d'Utique, on continua par le bord de la mer, et bientôt ils atteignirent la lagune, où des places rondes, toutes blanches de sel, miroitaient comme de gigantesques plats d'argent, oubliés sur le rivage. Puis les flaques d'eau se multiplièrent, le sol peu à peu devenant plus mou, les pieds s'enfonçaient. Hamilcar ne se retourna pas. Il allait toujours en tête, et son cheval, couvert de macules jaunes comme un dragon, en jetant de l'écume autour de lui, avançait dans la fange à grands coups de rein. La nuit tomba, une nuit sans lune. Quelques-uns crièrent qu'on allait périr. Il leur arracha leurs armes, qui furent données aux valets. La boue, cependant, était de plus en plus profonde. Il fallut monter sur les bêtes de somme, d'autres se cramponnaient à la queue des chevaux, les robustes tiraient les faibles, et le corps des ligures poussait l'infanterie avec la pointe des piques. L'obscurité redoubla. On avait perdu la route. Tous s'arrêtèrent. Alors les esclaves du suffète partirent en avant pour chercher les balises plantées par son ordre de distance en distance. Ils criaient dans les ténèbres, et de loin, l'armée les suivait. Enfin, on sentit la résistance du sol. Puis une courbe blanchâtre se dessina vaguement, et ils se trouvèrent sur le bord du Macar. Malgré le froid, on n'alluma pas de feu. Au milieu de la nuit, des rafales de vent s'élevèrent. Hamilcar fit réveiller les soldats, mais pas une trompette ne sonna. Leur capitaine les frappait doucement sur l'épaule. Un homme d'une haute taille descendit dans l'eau. Elle ne venait pas à la ceinture. On pouvait passer. Le suffète ordonna que 32 des éléphants se placeraient dans le fleuve 100 pas plus loin, tandis que les autres, plus bas, arrêteraient les lignes d'hommes emportées par le courant. Et tous, en tenant leurs armes au-dessus de leur tête, traversèrent le Macar comme entre 2 murailles. Il avait remarqué que le vent d'ouest, en poussant les sables, obstruait le fleuve et formait dans sa largeur une chaussée naturelle. Maintenant, il était sur la rive gauche, en face du Tik, et dans une vaste plaine, avantage pour ses éléphants qui faisaient la force de son armée. Ce tour de génie enthousiasma les soldats. Une confiance extraordinaire leur revenait. Ils voulaient tout de suite courir aux barbares. Le suffète les fit se reposer pendant 2 heures. Dès que le soleil parut, on s'ébranla dans la plaine sur 3 lignes. Les éléphants d'abord, l'infanterie légère avec la cavalerie derrière elle, la phalange marchait ensuite. Les barbares campés à Utik et les 15 000 autour du pont furent surpris de voir au loin la terre onduler. Le vent qui soufflait très fort chassait des tourbillons de sable. Ils se levaient comme arrachés du sol, montaient par grands lambeaux de couleur blonde, puis se déchiraient et recommençaient toujours, en cachant aux mercenaires l'armée punique. À cause des cornes dressées au bord des casques, les uns croyaient apercevoir un troupeau de bœufs, d'autres, trompés par l'agitation des manteaux, prétendaient distinguer des ailes, et ceux qui avaient beaucoup voyagé, haussant les épaules, expliquaient tout par les illusions du mirage. Cependant, quelque chose d'énorme continuait à s'avancer. De petites vapeurs, subtiles comme des haleines, couraient sur la surface du désert. Le soleil, plus haut maintenant, brillait plus fort, une lumière âpre et qui semblait vibrer, reculait la profondeur du ciel et, pénétrant les objets, rendait la distance incalculable. L'immense plaine se développait de tous les côtés, à perte de vue, et les ondulations des terrains, presque insensibles, se prolongeaient jusqu'à l'extrême horizon, fermé par une grande ligne bleue qu'on savait être la mer. Les 2 armées, sorties des tentes, regardaient. Les gens du Tik, pour mieux voir, se tassaient sur les remparts. Enfin, ils distinguèrent plusieurs barres transversales hérissées de points égaux. Elles devinrent plus épaisses, grandirent, des monticules noirs se balançaient, tout à coup des buissons carrés parurent. C'étaient des éléphants et des lances. Un seul cri s'éleva. « Les Carthaginois !» Et sans signal, sans commandement, les soldats du Tik et ceux du pont coururent pêle-mêle pour tomber ensemble sur Hamilcar. À ce nom, Spendius tressaillit. Il répétait en haletant « Hamilcar ! Hamilcar !» Et Mato n'était pas là. Que faire ? Nul moyen de fuir. La surprise de l'événement, sa terreur du suffète et surtout l'urgence d'une résolution immédiate le bouleversaient. Il se voyait traversé de 1000 glaives, décapité, mort. Cependant, on l'appelait. 30 000 hommes allaient le suivre. Une fureur contre lui-même le saisit. Il se rejeta sur l'espérance de la victoire. Elle était pleine de félicité et il se crut plus intrépide qu'Épaminondas. Pour cacher sa pâleur, il barbouilla ses joues de vermillon, puis il boucla ses cnémides, sa cuirasse, avala une patère de vin pur et courut après sa troupe qui se hâtait vers celle du Tik. Elles se rejoignirent toutes les deux si rapidement que le suffète n'eut pas le temps de ranger ses hommes en bataille. Peu à peu, ils se ralentissaient. Les éléphants s'arrêtèrent. Ils balançaient leurs lourdes têtes, chargées de plumes d'autruche, tout en se frappant les épaules avec leurs trompes. Au fond de leurs intervalles, on distinguait les cohortes des vélites. Plus loin, les grands casques des clinabares, avec des fers qui brillaient au soleil, des cuirasses, des panaches, des étendards agités. Mais l'armée carthaginoise, grosse de 11 396 hommes, semblait à peine les contenir, car elle formait un carré long, étroit des flancs et resserré sur soi-même. En les voyant si faibles, les barbares, 3 fois plus nombreux, furent pris d'une joie désordonnée. On n'apercevait pas Hamilcar. Il était resté là-bas, peut-être. Qu'importait d'ailleurs ? Le dédain qu'ils avaient de ces marchands renforçait leur courage, et avant que Spendius eût commandé la manœuvre, tous l'avaient comprise et déjà l'exécutaient. Ils se développèrent sur une grande ligne droite, qui débordait les ailes de l'armée punique afin de l'envelopper complètement. Mais quand on fut à 300 pas d'intervalle, les éléphants, au lieu d'avancer, se retournèrent. Puis voilà que les clinabares, faisant volte-face, les suivirent, et la surprise des mercenaires redoubla en apercevant tous les hommes de trait qui couraient pour les rejoindre. Les Carthaginois avaient donc peur, ils fuyaient. Une huée formidable éclata dans les troupes des barbares, et du haut de son dromadaire, Spendius s'écriait « Ah, je le savais bien ! En avant ! En avant !» Alors les javelots, les dards, les balles des frondes jaillirent à la fois. Les éléphants, la croupe piquée par les flèches, se mirent à galoper plus vite. Une grosse poussière les enveloppait, et comme des ombres dans un nuage, ils s'évanouirent. Cependant, on entendait au fond un grand bruit de pas, dominé par le son aigu des trompettes qui soufflaient avec furie. Cet espace que les barbares avaient devant eux, plein de tourbillons et de tumultes, attirait comme un gouffre. Quelques-uns s'y lancèrent. Des cohortes d'infanterie apparurent. Elles se refermaient, et en même temps, tous les autres voyaient accourir les fantassins avec des cavaliers au galop. En effet, Hamilcar avait ordonné à la phalange de rompre ses sections, aux éléphants, aux troupes légères et à la cavalerie, de passer par ces intervalles pour se porter vivement sur les ailes, et calculer si bien la distance des barbares que, au moment où ils arrivaient contre lui, l'armée carthaginoise tout entière faisait une grande ligne droite. Au milieu se hérissait la phalange, formée par des syntagmes ou carrés pleins, ayant 16 hommes de chaque côté. Tous les chefs de toutes les files apparaissaient entre de longs fers aigus qui les débordaient inégalement, car les 6 premiers rangs croisaient leurs sarisses en les tenant par le milieu, et les 10 rangs inférieurs les appuyaient sur l'épaule de leurs compagnons se succédant devant eux. Toutes les figures disparaissaient à moitié dans la visière des casques. Des cnémides en bronze couvraient toutes les jambes droites. Les larges boucliers cylindriques descendaient jusqu'aux genoux, et cette horrible masse quadrangulaire remuait d'une seule pièce, semblait vivre comme une bête et fonctionner comme une machine. 2 cohortes d'éléphants la bordaient régulièrement. Tout en frissonnant, ils faisaient tomber les éclats des flèches attachées à leur peau noire. Les Indiens, accroupis sur leur garrot, parmi les touffes de plumes blanches, les retenaient avec la cuillère du harpon, tandis que dans les tours, des hommes cachés jusqu'aux épaules promenaient, au bord de grands arcs tendus, des quenouilles en fer garnies des toupes allumées. À la droite et à la gauche des éléphants, voltigeaient les frondeurs, une fronde autour des reins, une seconde sur la tête, une 3e à la main droite. Puis les clinabares, chacun flanqué d'un nègre, tendaient leurs lances entre les oreilles de leurs chevaux tout couverts d'or comme eux. Ensuite s'espaçaient les soldats armés à la légère avec des boucliers en peau de lynx d'où dépassaient les pointes des javelots qu'ils tenaient dans leur main gauche. Et les tarentins, conduisant 2 chevaux accouplés, relevaient aux 2 bouts cette muraille de soldats. L'armée des barbares, au contraire, n'avait pu maintenir son alignement. Sur sa longueur exorbitante, il s'était fait des ondulations, des vides, tous haletaient, essoufflés d'avoir couru. La phalange s'ébranla lourdement en poussant toutes ses sarisses. Sous ce poids énorme, la ligne des mercenaires, trop mince, bientôt plia par le milieu. Alors les ailes carthaginoises se développèrent pour les saisir. Les éléphants les suivaient. Avec ses lances obliquement tendues, la phalange coupa les barbares. 2 tronçons énormes s'agitèrent. Les ailes, à coups de fronde et de flèches, les rabattaient sur les phalangistes. Pour s'en débarrasser, la cavalerie manquait. Sauf 2 sons humides qui se portèrent contre l'escadron droit des clinabares, tous les autres se trouvaient enfermés, ne pouvaient sortir de ces lignes. Le péril était imminent et une résolution urgente. Spendius ordonna d'attaquer la phalange simultanément par les 2 flancs, afin de passer tout au travers. Mais les rangs les plus étroits glissèrent sous les plus longs, revinrent à leur place, et elle se retourna contre les barbares, aussi terrible de ses côtés qu'elle l'était de front tout à l'heure. Ils frappaient sur la hampe des sarisses, mais la cavalerie par derrière gênait leur attaque, et la phalange, appuyée aux éléphants, se resserrait et s'allongeait, se présentait en carré, en cône, en rhombe, en trapèze, en pyramide. Un double mouvement intérieur se faisait continuellement de sa tête à sa queue, car ceux qui étaient au bas des files accouraient vers les premiers rangs, et ceux-là, par lassitude ou à cause des blessés, se repliaient plus bas. Les barbares se trouvèrent foulés sur la phalange. Il lui était impossible de s'avancer. On aurait dit un océan où bondissaient des aigrettes rouges avec des écailles d'airain, tandis que les clairs boucliers se roulaient comme une écume d'argent. Quelquefois, d'un bout à l'autre, de larges courants descendaient, puis ils remontaient, et au milieu une lourde masse se tenait immobile. Les lances s'inclinaient et se relevaient alternativement. Ailleurs, c'était une agitation de glaives nus si précipités que les pointes seules apparaissaient et des turmes de cavalerie élargissaient des cercles qui se refermaient derrière elles en tourbillonnant. Par-dessus la voix des capitaines, la sonnerie des clairons et le grincement des lyres, les boules de plomb et les amandes d'argile passant dans l'air, sifflaient, faisaient sauter les glaives des mains, la cervelle des crânes. Les blessés, s'abritant d'un bras sous leur bouclier, tendaient leur épée en appuyant le pommeau contre le sol, et d'autres, dans des mares de sang, se retournaient pour mordre les talons. La multitude était si compacte, la poussière si épaisse, le tumulte si fort, qu'il était impossible de rien distinguer. Les lâches qui offrirent de se rendre ne furent même pas entendus. Quand les mains étaient vides, on s'étreignait corps à corps, les poitrines craquaient contre les cuirasses, et des cadavres pendaient la tête en arrière entre deux bras crispés. Il y eut une compagnie de 60 ombriens qui, fermes sur leurs jarrets, la pique devant les yeux, inébranlables et grinçant des dents, forcèrent à reculer deux syntagmes à la fois. Des pasteurs et pirotes coururent à l'escadron gauche des clinabars, saisirent les chevaux à la crinière en faisant tournoyer leurs bâtons. Les bêtes, renversant leurs hommes, s'enfuirent par la plaine. Les frondeurs puniques, écartés çà et là, restaient béants. La phalange commençait à osciller. Les capitaines couraient éperdus, les serfils poussaient les soldats, et les barbares s'étaient reformés. Ils revenaient, la victoire était pour eux. Mais un cri épouvantable éclata, un rugissement de douleur et de colère. C'étaient les 72 éléphants qui se précipitaient sur une double ligne, Hamilcar ayant attendu que les mercenaires fussent tassés en une seule place pour les lâcher contre eux. Les Indiens les avaient si vigoureusement piqués que du sang coulait sur leurs larges oreilles. Leurs trompes, barbouillées de minium, se tenaient droites en l'air, pareilles à des serpents rouges. Leurs poitrines étaient garnies d'un épieu, leur dos d'une cuirasse, leur défense allongée par des lames de fer courbes comme des sabres. Et pour les rendre plus féroces, on les avait enivrés avec un mélange de poivre, de vin pur et d'encens. Ils secouaient leurs colliers de grelots, criaient, et les éléphants tarques baissaient la tête sous le jet des phalariques qui commençaient à voler du haut des tours. Afin de mieux leur résister, les barbares se ruèrent, en foule compacte. Les éléphants se jetèrent au milieu, impétueusement. Les éperons de leurs poitrailles, comme des proues de navire, fendaient les cohortes. Elles refluaient à gros bouillons. Avec leurs trompes, ils étouffaient les hommes, ou bien, les arrachant du sol par-dessus leur tête, ils les livraient aux soldats dans les tours. Avec leur défense, ils les éventraient, les lançaient en l'air, et de longues entrailles pendaient à leurs crocs d'ivoire comme des paquets de cordages à des mâts. Les barbares tâchaient de leur crever les yeux, de leur couper les jarrets, d'autres se glissant sous leur ventre y enfonçaient un glaive jusqu'à la garde et périssaient écrasés. Les plus intrépides se cramponnaient à leurs courroies. Sous les flammes, sous les balles, sous les flèches, ils continuaient à scier les cuirs, et la tour d'osier s'écroulait comme une tour de pierre. 14 de ceux qui se trouvaient à l'extrémité droite, irrités de leurs blessures, se retournèrent sur le second rang. Les Indiens saisirent leurs maillets et leurs ciseaux, et l'appliquant au joint de la tête, à tour de bras, ils frappèrent un grand coup. Les bêtes énormes s'affaissèrent, tombèrent les unes par-dessus les autres. Ce fut comme une montagne, et sur ce tas de cadavres et d'armures, un éléphant monstrueux qu'on appelait Fureur de Baal, pris par la jambe entre des chaînes, resta jusqu'au soir à hurler avec une flèche dans l'œil. Cependant les autres, comme des conquérants qui se délectent dans leur extermination, renversaient, écrasaient, piétinaient, s'acharnaient aux cadavres, aux débris. Pour repousser les manipules serrées en couronne autour d'eux, ils pivotaient sur leurs pieds de derrière, dans un mouvement de rotation continuelle, en avançant toujours. Les Carthaginois sentirent redoubler leur vigueur, et la bataille recommença. Les barbares faiblissaient. Des hoplites grecs jetèrent leurs armes. Une épouvante prit les autres. On aperçut Spendius penché sur son dromadaire, et qui les prenait aux épaules avec deux javelots. Tous alors se précipitèrent par les ailes et coururent vers Utique. Les clinabares, dont les chevaux n'en pouvaient plus, n'essayèrent pas de les atteindre. Les ligures, exténués de soif, criaient pour se porter sur le fleuve. Mais les Carthaginois, placés au milieu des syntagmes et qui avaient moins souffert, trépignaient de désir devant leur vengeance qui fuyait. Déjà, ils s'élançaient à la poursuite des mercenaires. Hamilcar parut. Il retenait avec des rênes d'argent son cheval tigré tout couvert de sueur. Les bandelettes attachées aux cornes de son casque claquaient au vent derrière lui, et il avait mis sous sa cuisse gauche son bouclier ovale. D'un mouvement de sa pique à trois pointes, il arrêta l'armée. Les Tarentins sautèrent vite de leur cheval sur le second et partirent à droite et à gauche vers le fleuve et vers la ville. La phalange extermina comme au démon tout ce qui restait de barbares. Quand arrivaient les épées, ils tendaient la gorge en fermant les paupières. D'autres se défendirent à outrance, on les assomma de loin, sous des cailloux, comme des chiens enragés. Hamilcar avait recommandé de faire des captifs. Mais les Carthaginois lui obéissaient avec rancune, tant ils sentaient de plaisir à enfoncer leurs glaives dans les corps des barbares. Comme ils avaient trop chaud, ils se mirent à travailler à nu-bras, à la manière des faucheurs, et lorsqu'ils s'interrompaient pour reprendre haleine, ils suivaient des yeux, dans la campagne, un cavalier galopant après un soldat qui courait. Ils parvenaient à le saisir par les cheveux, le tenaient ainsi quelque temps, puis l'abattaient, d'un coup de hache. La nuit tomba. Les Carthaginois, les barbares, avaient disparu. Les éléphants, qui s'étaient enfuis, vagabondaient à l'horizon avec leurs tours incendiées. Elles brûlaient dans les ténèbres, çà et là, comme des phares à demi perdus dans la brume, et l'on apercevait d'autres mouvements sur la plaine que l'ondulation du fleuve, exaucée par les cadavres et qui les charriait à la mer. 2 heures après, Mato arriva. Il entrevit à la clarté des étoiles de longs tas inégaux, couchés par terre. C'étaient des files de barbares. Il se baissa. Tous étaient morts. Il appela au loin. Aucune voix ne lui répondit. Le matin même, il avait quitté Hipposarite avec ses soldats pour marcher sur Carthage. À Utique, l'armée de Spendius venait de partir et les habitants commençaient à incendier les machines. Tous s'étaient battus avec acharnement. Mais le tumulte qui se faisait vers le pont, redoublant d'une façon incompréhensible, Mato s'était jeté par le plus court chemin à travers la montagne et comme les barbares s'enfuyaient par la plaine, il n'avait rencontré personne. En face de lui, de petites masses pyramidales se dressaient dans l'ombre et en deçà du fleuve, plus près, il y avait à ras du sol des lumières immobiles. En effet, les Carthaginois s'étaient repliés derrière le pont et pour tromper les barbares, le suffète avait établi des postes nombreux sur l'autre rive. Mato, s'avançant toujours, crut distinguer des enseignes puniques, car des têtes de cheval qui ne bougeaient pas apparaissaient dans l'air, fixées au sommet des hampes en faisceaux que l'on ne pouvait voir. Et il entendit plus loin une grande rumeur, un bruit de chansons et de coupes heurtées. Alors, ne sachant où il se trouvait, ni comment découvrir Spendius, tout assailli d'angoisse, effaré, perdu dans les ténèbres, il s'en retourna par le même chemin, plus impétueusement. L'aube blanchissait, quand du haut de la montagne il aperçut la ville, avec les carcasses des machines noircies par les flammes, comme des squelettes de géants qui s'appuyaient au mur. Tout reposait dans un silence et dans un accablement extraordinaire. Parmi ces soldats, au bord des tentes, des hommes presque nus dormaient sur le dos, ou le front contre leurs bras que soutenaient leurs cuirasses. Quelques-uns décollaient de leurs jambes des bantelettes ensanglantées. Ceux qui allaient mourir roulaient leur tête, tout doucement. D'autres, en se traînant, leur apportaient à boire. Le long des chemins étroits, les sentinelles marchaient pour se réchauffer ou se tenaient la figure tournée vers l'horizon, avec leur pique sur l'épaule, dans une attitude farouche. Mato trouva Spendius abrité sous un lambeau de toile que supportaient 2 bâtons par terre, le genou dans les mains, la tête basse. Ils restèrent longtemps sans parler. Enfin Mato murmura « Vaincu !» Spendius reprit d'une voix sombre. « Oui, vaincu. » Et à toutes les questions, il répondait par des gestes désespérés. Cependant des soupirs, des râles arrivaient jusqu'à eux. Mato entr'ouvrit la toile. Alors le spectacle des soldats lui rappela un autre désastre, au même endroit, et en grinçant des dents. « Misérable, une fois déjà !» Spendius l'interrompit. « Tu n'y étais pas non plus. » « C'est une malédiction !» s'écria Mato. « À la fin, pourtant, je l'atteindrai. Je le vaincrai. Je le tuerai. Ah, si j'avais été là !» L'idée d'avoir manqué la bataille le désespérait plus encore que la défaite. Il arracha son glaive, le jeta par terre. « Mais comment les Carthaginois vous ont-ils battu ?» L'ancien esclave se mit à raconter les manœuvres. Mato croyait les voir, et il s'irritait. L'armée du Tic, au lieu de courir vers le pont, aurait dû prendre Amilcar par derrière. « Eh, je le sais, » dit Spendius. Il fallait doubler tes profondeurs, ne pas compromettre les Vélites contre la phalange, donner des issues aux éléphants. Au dernier moment, on pouvait tout regagner, rien ne forçait à fuir. Spendius répondit. Je l'ai vu passer dans son grand manteau rouge, les bras levés, plus haut que la poussière, comme un aigle qui volait au flanc des cohortes. Et à tous les signes de sa tête, elle se resserrait, s'élançait. La foule nous a entraînés l'un vers l'autre. Il me regardait. J'ai senti dans mon cœur comme le froid d'une épée. Il aura peut-être choisi le jour, se disait tout bas Mato. Ils s'interrogèrent, tâchant de découvrir ce qui avait amené le suffète précisément dans la circonstance la plus défavorable. Ils en vinrent à causer de la situation, et pour atténuer sa force ou se redonner à lui-même du courage, Spendius avança qu'il restait encore de l'espoir. « Qu'il n'en reste plus. N'importe, dit Mato. Tout seul, je continuerai la guerre. »« Et moi aussi, s'écria le grec en bondissant. » Il marchait à grands pas. Ses prunelles étincelaient et un sourire étrange plissait sa figure de chacal. « Nous recommencerons. Ne me quitte plus. Je ne suis pas fait pour les batailles au grand soleil. L'éclat des épées me trouble la vue. C'est une maladie. J'ai trop longtemps vécu dans l'ergastule. Mais donne-moi des murailles à escalader la nuit. » Et j'entrerai dans les citadelles, et les cadavres seront froids avant que les coqs aient chanté. Montre-moi quelqu'un, quelque chose, un ennemi, un trésor. Une femme, il répéta. Une femme, fût-elle la fille d'un roi, et j'apporterai vivement ton désir devant tes pieds. Tu me reproches d'avoir perdu la bataille contre Hannon. Je l'ai regagnée pourtant. Avoue-le, mon troupeau de porcs nous a plus servi qu'une phalange de Spartiates. Et, cédant au besoin de se rehausser et de saisir sa revanche, il énuméra tout ce qu'il avait fait pour la cause des mercenaires. « C'est moi dans les jardins du suffète qui ai poussé le Gaulois. Plus tard, à Sicca, je les ai tous enragés avec la peur de la République. Giscon les renvoyait, mais je n'ai pas voulu que les interprètes puissent parler. Ah, comme la langue leur pendait de la bouche, t'en souviens-tu? Je t'ai conduit dans Carthage, j'ai volé le Zaïnphe, je t'ai mené chez elle. Je ferai plus encore, tu verras. » Il éclata de rire comme un fou. Mato le considérait les yeux béants. Il éprouvait une sorte de malaise devant cet homme, qui était à la fois si lâche et si terrible. Le grec reprit d'un ton jovial, en faisant claquer ses doigts. « Évoé, après la pluie, le soleil. J'ai travaillé aux carrières et j'ai bu du massic dans un vaisseau qui m'appartint, sous un tendelet d'or, comme un Ptolémée. Le malheur doit servir à nous rendre plus habiles. » À force de travail, on assouplit la fortune. Elle aime les politiques. Elle cédera. » Il revint sur Mato et, le prenant au bras, « Maître, à présent les Carthaginois sont sûrs de leur victoire. Tu as toute une armée qui n'a pas combattu. Et tes hommes t'obéissent à toi. Place-les en avant. Les miens, pour se venger, marcheront. Il me reste 3000 cariens, 1200 frondeurs et des archers, des cohortes entières. On peut même former une phalange. Retournons !» Mato, abasourdi par le désastre, n'avait jusqu'à présent rien imaginé pour en sortir. Il écoutait, la bouche ouverte, et les lames de bronze qui cerclaient ses côtes se soulevaient au bondissement de son cœur. Il ramassa son épée, en criant « Suis-moi, marchons !» Mais les éclaireurs, quand ils furent revenus, annoncèrent que les morts des Carthaginois étaient enlevés, le pont tout en ruine, et Amilcar disparut.